À une époque où religion et pouvoir sont étroitement liés, pouvoir et Église ne sont pas nécessairement en bonne entente. Et c'est bien ce que montre l'histoire de la suppression de la Compagnie de Jésus, qui est une histoire assez complexe et qui s'insère dans un contexte bien particulier. Je ne vais pas, évidemment, vous raconter l'histoire de la Compagnie de Jésus, je vais prendre uniquement l'histoire de sa suppression au XVIIIe siècle par le pape Clément XIV. C'est une histoire qui commence, qui dure une vingtaine d'années. C'est à peu près une génération, du milieu du XVIIIe siècle, du début des années 1750, donc jusqu'au début des années 1770. Et c'est une histoire qui concerne l'Europe catholique, et plus particulièrement, au premier chef, l'Europe des Bourbons, c'est-à-dire la France, l'Espagne, et puis le royaume de Naples et le duché de Parme, plus un État qui n'est pas un État bourbon et qui va lancer l'impulsion et qui ensuite, dans son ambition, va retrouver le soutien des Bourbons européens, le Portugal. Alors pourquoi s'attaquer aux Jésuites? Si vous avez lu le petit résumé, la petite introduction, un historien italien a très bien résumé, grand historien italien du XVIIIe siècle, spécialiste du XVIIIe siècle, Franco Venturi, a très bien résumé ce que représentaient les jésuites en disant « La suppression de la compagnie fut espérée et entendue comme la promesse d'une époque nouvelle, dans la morale comme dans l'économie, dans la religion comme dans la politique. » Donc, pour bien situer l'importance de la suppression de la compagnie de Jésus, il faut la comprendre comme un événement qui marque un basculement du XVIIIe siècle. C'est le premier verrou qui saute dans la construction de cette société qu'on avait essayé de vouloir cohérente et ordonnée dans le cadre de la réforme catholique. Et c'est le premier verrou qui saute dans la remise en cause de cette organisation sociale, politique de la réforme catholique. En fait, c'est l'Europe catholique qui bascule. Alors, le divorce entre la Compagnie de Jésus et la modernité du XVIIIe siècle, ce divorce, il se joue à plusieurs niveaux. Il se joue d'abord au niveau philosophique. Les jésuites sont apparus très vite, après une ou deux générations de compagnonnage, ils sont apparus très vite comme les principaux adversaires de ce qu'on appellera rapidement la philosophie des Lumières, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas éclairés pour autant. Mais en France, les choses sont un peu particulières. Leur grand périodique français, les Mémoires de Trévoux, qui sont à l'origine un périodique littéraire et savant pour tout le monde, vont devenir, à partir des années 1750, un organe polémique qui a deux adversaires principaux, les jansénistes, ça c'est pas nouveau pour les jésuites, et puis les philosophes. Et certains auteurs, certains collaborateurs de ce périodique vont se faire les dénonciateurs d'un complot contre l'Église et contre l'État, un complot qui inclut les jansénistes, les philosophes. Un premier pamphlet paraît au milieu du XVIIIe siècle qui s'intitule « La réalité du projet de Bourgfontaine ». Donc on dénonce un sombre complot. Et puis ça va aller jusqu'au fameux livre de Baruel, qui est bien connu, « Les mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme », qui sont publiés en 1796 et qui tentent de trouver une explication à la Révolution française, et qui dénonce le complot des philosophes, des jansénistes, des francs-maçons et des protestants. Donc, à cause de cette vision, de cette hantise du complot, la suppression de la Compagnie de Jésus va aussi être interprétée, a posteriori, et particulièrement au XIXe siècle, comme la première étape qui va mener à la Révolution française. Ce qui est excessif, et ce qui n'est pas non plus complètement faux, vous verrez. Ensuite, le deuxième niveau auquel se joue le divorce, c'est le niveau de l'enseignement. Les jésuites ont été des rénovateurs de l'enseignement, ils sont les créateurs pour une bonne part de l'enseignement secondaire, ils ont réutilisé des inspirations antérieures, je ne reviens pas, mais ils ont joué un rôle déterminant, mais au XVIIIe siècle, ils retardent. Au XVIIIe siècle, ils ne se sont pas rénovés. Et ils sont face à eux, ils ont des exigences qui sont portées soit par des laïcs, soit par d'autres ordres religieux, en finir avec la suprématie de l'enseignement du latin, en finir avec ce théâtre jésuite qui est tout sauf formateur, assurer un enseignement des langues étrangères plus généralisé, et puis donner à l'histoire une place centrale. Et enfin, et ça n'est pas le moindre, promouvoir l'enseignement scientifique et ne pas faire de l'enseignement des sciences une sous-branche de l'enseignement de la philosophie. Et les jésuites n'ont pas rénové leur fameux Ratio Studiorum depuis la dernière édition qui date de la fin du XVIe siècle jusqu'au début du XIXe. Ils attendront le début du XIXe pour le rénover. Donc, ils sont décalés. Et puis enfin, le divorce, il se joue aussi au niveau politique. Les jésuites apparaissent dans la plupart des États comme les tenants de l'absolutisme, le principal rempart de l'absolutisme. Et on leur reproche, et Diderot le fait très bien dans son article jésuite de l'encyclopédie, on leur reproche d'avoir un engagement mondain beaucoup trop poussé. Donc, pour toutes ces raisons-là, et enfin, ils sont, vous le savez, le fer de lance de la réforme catholique. Ils représentent, ils incarnent à eux seuls toute cette piété qui aime les démonstrations spectaculaires, qui aime les belles liturgies, qui est attachée aux dévotions, à une religion du sensible. Et tout cela est remis en cause au XVIIIe siècle. Donc, ils représentent par excellence sans que l'on formule les choses de cette manière-là, mais finalement c'est bien de ça qu'on a conscience, il représente un état de la civilisation qui est en train de passer, et leur suppression, et c'est là que la phrase de Franco Venturi me paraît très juste, leur suppression apparaît comme la première condition d'une régénération. Et cela aussi bien dans le cadre interne du catholicisme, de l'Église, que pour les adversaires de l'Église. Donc leur position est particulièrement difficile. Elle est particulièrement difficile. D'autant plus que les jésuites sont habitués à être reconnus comme en quelque sorte les premiers serviteurs et les premiers défenseurs de la papauté, qu'ils n'ont l'habitude de vivre dans des états où ils sont bien installés, où ils ont une audience très large dans la société, et ils ne se doutent pas un moment, pas un seul instant, qu'ils pourraient disparaître. On leur reproche leur arrogance, et le supérieur général des jésuites au début du XVIIIe siècle, Visconti, leur dit « Faites attention, montrez-vous un peu plus modeste. » Le cardinal de Fleury, principal ministre sans titre de Louis XV, disait « Les jésuites, ils sont très bien, quand ils sont mortifiés. » Voilà. Donc ça en dit long, si vous voulez, sur leur position. Ils sont dans l'illusion. Ils sont dans l'illusion sur, effectivement, la reconnaissance dont ils bénéficient. Alors cela dit, ils sont puissants par leur collège, par les maisons de retraite qu'ils ont commencé à installer à partir du XVIIe siècle, par les congrégations mariales qui sont en quelque sorte des associations d'anciens élèves qui leur permettent de garder le contact avec les élites sociales qui sont passées, qui ont mis leurs enfants dans leur collège. Ils sont puissants également parce qu'ils sont assez souvent confesseurs des élites, et notamment des rois. C'est le cas du roi de France, il est un confesseur jésuite depuis Henri IV. Ils sont puissants parce qu'ils sont réputés être d'excellents directeurs de conscience. Et comme vous savez que les psychologues, les psychanalystes et les psychiatres n'existent pas à cette époque-là, ce sont les directeurs de conscience qui sont sollicités. Ils sont puissants aussi parce qu'ils sont de très bons prédicateurs. Donc ils sont partout. Et ils ne doutent pas un instant, pour cette raison-là, que le pape pourrait vouloir les supprimer. La question est de savoir si le pape a vraiment voulu les supprimer. Alors comment se déclenche cette histoire ? Cette histoire, elle se déclenche en dehors d'Europe par un épisode qui est tout à fait intéressant, l'épisode, ou la fin plus exactement, la fin des réductions des Guaranis. De quoi s'agit-il ? Je suppose que vous avez déjà entendu parler, je rappelle assez rapidement. Il s'agit de villages que les jésuites de villages indiens, des populations guaranis, du peuple guarani, que les jésuites avaient installés au Paraguay, aux confins des vallées du Paraná et de l'Uruguay, et dont ils avaient reçu l'administration du roi d'Espagne Philippe III au début du XVIIe siècle. C'est un territoire grand comme à peu près les deux tiers de la France, qu'ils avaient reçu en concession totale de Philippe III pour y installer leurs réductions, pour installer donc les Indiens Guarani dans ces réductions, comme on les appelait, avec comme seule condition le versement d'un tribut annuel au roi d'Espagne. Et moyennant cette condition, toute l'administration du territoire était confiée à la Compagnie de Jésus, qui le faisait comme elle l'entendait. Aucun Espagnol, aucun étranger n'avait le droit de pénétrer dans ce territoire, aucun métis non plus. Théoriquement, ils étaient sous contrôle épiscopal. Dans les faits, l'évêque ne venait jamais, donc ils étaient parfaitement libres. Et ils ont organisé ces réductions guarani comme des espèces de petites théocraties communistes, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de propriété privée. Toute la propriété était intégralement collective. Chaque famille se voyait attribuer une maison dont elle n'était pas propriétaire. Toutes les maisons étaient strictement identiques. Dans des villages qui étaient construits selon un plan orthogonal, à la romaine, tous pareils, avec au centre une place sur laquelle il y avait la maison commune, une sorte d'hôtel de ville, si vous voulez, l'église et la maison des pères jésuites. Et au total, ils ont ainsi établi une trentaine de colonies, de réductions, qui représentaient l'apogée du système, c'est-à-dire en fait quand il a été supprimé, qui représentait une population d'environ 30 000 Indiens, à peu près, pour 200 jésuites. Donc 30 000 Indiens pour 200 jésuites, il est évident que ce n'est pas par la force que les jésuites ont contrôlé les Indiens. Voilà. Alors, on pourrait en parler longtemps de ces réductions guarani, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Dans ces réductions, ils exerçaient de fait un pouvoir politique. Ils exerçaient aussi un pouvoir économique, car les réductions vivaient en autarcie d'un point de vue économique, mais le surplus de la production qui était effectué par les Indiens n'était pas vendu strictement directement au profit des Indiens. Il était exporté de ces réductions vers les établissements jésuites voisins du Pérou, où là, la compagnie soit l'utilisait directement pour ses besoins, soit le revendait. Donc on les a accusés de faire du commerce et de se mêler de choses dont les prêtres, les clercs n'ont pas à se mêler. Alors, que s'est-il passé en 1750? L'Espagne et le Portugal signent un traité pour rectifier leurs frontières en Amérique latine, les frontières de leurs possessions en Amérique latine. Et comme une partie des réductions jésuites faisait une enclave vers le Brésil, eh bien, le traité de frontières de 1750 a fait passer un certain nombre de réductions, 7 si mes souvenirs sont bons, sous le contrôle du Portugal. Le roi de Portugal, ou plus exactement c'est le roi de Portugal, ce n'est pas encore son ministre, le roi de Portugal décide que, sous la pression des colons portugais du Brésil, décide que les jésuites devront accepter de céder leur réduction, que les Guaranis seront expulsés au profit des colons et qu'ils seront dédommagés. Les jésuites n'acceptent pas, les Guaranis se révoltent. Les jésuites n'ont rien fait, bien sûr, pour empêcher les Guaranis de se révolter. De toute façon, ils les avaient déjà armés auparavant contre les colons portugais depuis le XVIIe siècle, pour empêcher les colons portugais de venir. Donc une guerre s'ensuit qui dure 3 à 4 ans, de 1753 à 56, que les Guaranis finissent par perdre quand ils commettent la bêtise de vouloir engager une bataille rangée alors que la guérilla leur profitait beaucoup plus. Ils la perdent et donc ils sont expulsés. Les jésuites reste pour l'instant, mais le nouveau principal ministre du roi de Portugal, le marquis de Pombal, qu'il ne faut pas voir comme un philosophe anti-chrétien, pas du tout, non. Simplement, c'est un homme qui est très soucieux que dans son territoire, dans son état, le roi contrôle tout. Donc, il n'admet pas qu'il y ait un territoire dans les colonies portugaises qui échappe au contrôle du pouvoir royal. Il trouve tout à fait anormal qu'il y ait une part de l'économie coloniale qui échappe à la fiscalité royale. Donc, pour lui, c'est ainsi qu'il voit les choses. Et comme les jésuites, il les ressent comme beaucoup de ce qu'on appelle les juridictionnalistes c'est-à-dire ceux qui affirment le pouvoir de l'État sur l'Église au XVIIIe siècle. C'est une tradition de philosophie juridique italienne qui a donné ce nom de juridictionnalisme. Eh bien, au Portugal même, ils voient les jésuites comme les représentants d'un pouvoir étranger dont il faut réduire l'influence. Donc, il va s'emparer de l'affaire du Paraguay pour entamer une lutte contre les jésuites. Et Pombal voit loin. Il voit loin. Il comprend très bien que s'il veut lutter contre la Compagnie de Jésus, il ne faut pas qu'il se limite au Portugal. Il faut qu'il vise directement à Rome. Et que c'est de Rome que viendra la solution du problème que lui posent à lui les jésuites. Donc il entame une grande propagande, une grande campagne de propagande. Il recrute pour cela un ancien capucin français qui est un personnage un peu curieux, un peu original, qui s'appelait Norbert de Bar, et qui se fait appeler Robert Parisot pour écrire ses pamphlets, ou encore l'abbé Platel, et qui va écrire des pamphlets sur les jésuites qui vont être traduits dans toutes les langues des États catholiques européens pour être diffusés partout, et qui vont être traduits en premier en italien pour pouvoir être diffusés à Rome auprès des cardinaux anti-jésuites pour leur fournir des arguments, car il y a des cardinaux anti-jésuites, quantité de raisons. De plus, les jésuites se sont fait mal voir au Portugal. En 1755, vous savez, à la Toussaint 1755, il y a eu la grande catastrophe du XVIIIe siècle, le tremblement de terre de Lisbonne, qui a détruit la plus grande partie de la ville de Lisbonne. Or, ça s'est passé pendant la guerre au Paraguay, dans les réductions Guarani. Et le provincial jésuite, qui n'était pas provincial à l'époque en 1955, il le devient un peu plus tard, mais qui s'appelait Malagrida, le père Malagrida, prêche pour expliquer que le tremblement de terre est un châtiment du ciel parce que le roi de Portugal mène une politique contre l'Église et contre la religion en Amérique latine, en Uruguay. Donc ça n'a pas plu du tout ni au roi de Portugal et encore moins à Pombal. Et voilà qu'à l'automne 1758, un attentat a lieu contre le roi de Portugal, pour des raisons d'ordre privé, vengeance d'ordre privé, et très vite, l'attentat est attribué aux jésuites. Début 1759, Pombal obtient le renvoi des jésuites de la cour, donc tous les confesseurs jésuites qui étaient à la cour sont renvoyés. Il obtient du pape, qui était à ce moment-là le successeur de Benoît XIV, c'est-à-dire Clément XIII, il obtient du pape l'envoi d'un observateur apostolique, mais en fait qu'il a désigné, et qui est son cousin à lui, pour enquêter sur les activités des jésuites. Et l'enquêteur apostolique déclare que les jésuites sont éminemment coupables parce qu'ils se sont livrés d'une part à des activités commerciales, d'autre part qu'ils ont soutenu une révolte armée. Les jésuites sont accusés d'avoir pris eux-mêmes les armes, ce qu'il est bien difficile de déterminer, ce n'est pas impossible. Et cela sert de prétexte, à l'arrest, à la confiscation des biens des jésuites en 1759, à leur arrestation, et particulièrement à l'arrestation du père Malagrida et des principaux conseillers de Malagrida. Malagrida va rester en prison 2 ans, au bout desquels il va commencer à déraisonner un petit peu. Il se met à raconter qu'il voit telle ou telle sainte, qu'il converse avec elle, qu'il a un commerce épistolaire avec Ignace de Loyola, etc. Donc c'est très facile, on l'accuse d'hérésie, ça ressemble à de la sorcellerie, tout ça, on l'accuse d'hérésie, et finalement, 3 de ces jésuites enfermés seront brûlés, monteront sur le bûcher en 1761 à Lisbonne. Mais avant cela, en attendant cela, dès la fin 1759, les jésuites portugais sont expulsés, rassemblés, après avoir été arrêtés, sont tous rassemblés, 800 jésuites à peu près, sont arrêtés et expulsés, et on les envoie où ? C'est tout naturel, on les embarque sur les bateaux à Lisbonne, et hop, direction Rome, qu'ils retournent chez le pape, puisqu'ils sont les principaux, les défenseurs per inde a cadaver de l'autorité pontificale. Donc ils sont envoyés là-bas. Le pape, d'ailleurs, on ne l'a pas consulté. Il a commencé par dire, non, je ne veux pas. Je n'en veux pas. Donc c'est la première étape. La deuxième étape de la suppression de la Compagnie de Jésus, elle se déroule en France. elle se déroule en France. L'idée a germé assez tôt en France. On trouve les premières traces de l'idée de l'expulsion des jésuites dès les années 1730. Et puis, cela s'inscrit en France dans le conflit consécutif à la dernière condamnation du jansénisme par la bulle Unigenitus de 1713. Donc les jansénistes ont toujours considéré que les jésuites avaient été à l'origine de cette bulle, ce qui est en partie vrai, en partie faux. Il y a des jésuites qui ont été très actifs pour que cette bulle soit fulminée par le pape et qui ont inspiré une partie de sa rédaction. Ça ne veut pas dire que toute la compagnie est derrière. Et puis, d'autre part, en France, on n'a jamais tellement accepté, notamment toute la magistrature française, n'a jamais accepté que les jésuites aient pu s'installer en France sans qu'ils aient fait l'objet d'une autorisation explicite de la monarchie et sans qu'ils aient déposé auprès des tribunaux leur constitution. Donc, ils ont toujours été ressentis par la magistrature française comme un corps étranger, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas une partie de la magistrature qui ne plaçait pas ses fils chez les jésuites et qu'il n'y avait pas une partie de la magistrature qui était prête à défendre les jésuites, pour autant. Et en France, les choses vont commencer à se détériorer, la situation va commencer à se détériorer, d'abord avec l'attentat de Damiens contre Louis XV en 1757, au début de l'année 57. Comme Damiens a été un moment domestique au collège Louis le Grand, donc le grand collège parisien des jésuites, certains accusent les jésuites d'avoir inspiré Damiens. D'autre part, une affaire survient dans laquelle les jésuites vont se conduire avec une naïveté qui est déconcertante et qui montre bien qu'ils n'imaginaient vraiment pas qu'on puisse leur en vouloir à ce point-là. C'est la fameuse affaire Lavalette. Lavalette était le père jésuite qui était responsable de la mission jésuite de la Martinique. Et Lavalette avait le sens des affaires. Voilà, c'était un entrepreneur. Donc, qu'a-t-il fait dans sa mission jésuite pour la faire prospérer? Eh bien, il a créé des plantations de canne à sucre, et en achetant des esclaves pour ça, parce que c'est comme ça qu'on cultive les plantations dans les Antilles, comme dans le reste de la région, en achetant des esclaves noirs. Et puis, tout a bien marché jusqu'à la guerre de 7 ans qui commence en 1756. Parce qu'à partir de la guerre de 7 ans, les bateaux pleins de canne à sucre, ou de mélasse plus exactement, qui partaient de la Martinique pour les côtes françaises, ces bateaux commencent à se faire arrêter par les corsaires anglais. Donc, Lavalette, qui avait emprunté pour développer son entreprise sucrière, si j'ose dire, son exploitation sucrière, Lavalette se trouve bien gêné et ne peut plus rembourser. Il avait emprunté à qui? Il avait emprunté à des commerçants marseillais. Les commerçants marseillais se sont retournés vers le tribunal de commerce de Marseille, le tribunal consulaire de Marseille, et le tribunal consulaire de Marseille condamne la Compagnie de Jésus à rembourser ses créanciers. Et à ce moment-là, le provincial des jésuites en France, appuyé par le père général à Rome, déclare que non. Dans la Compagnie de Jésus, chaque maison est autonome financièrement. Donc s'il y en a une qui coule, ben qu'elle coule. Mais les autres, la compagnie ne remboursera pas. Que font les créanciers? Eh bien, les créanciers se pourvoient plus haut. Et à ce moment-là, la Compagnie de Jésus, pour échapper aux poursuites des créanciers, décide de se pourvoir, non pas au conseil du roi comme elle en avait le droit, c'était un des privilèges que lui avait attribué Henri IV, c'était le droit de comitimus, comme on disait, elle décide de se pourvoir auprès du Parlement de Paris. Et c'est ça qui est absolument déconcertant, mais qui est également explicable. Parce qu'au Parlement de Paris, les jésuites avaient des amis. Il y a des conseillers au Parlement de Paris, ou des présidents de chambre au Parlement de Paris, qui sont membres des congrégations mariales, de la congrégation mariale Saint-Paul-Saint-Louis des jésuites à Paris. Donc ils ont des amis. Mais ce qu'ils n'ont pas saisi, c'est que la majorité des parlementaires parisiens vont saisir l'occasion pour dire ben, « Enfin, nous allons pouvoir exiger que la Compagnie de Jésus dépose ses constitutions au greffe du tribunal pour qu'on puisse examiner si ces constitutions sont compatibles avec les lois du royaume. » Et donc, c'est en avril 1761, que les jésuites sont sommés de déposer leur constitution. Et dès le mois d'août, le Parlement de Paris condamne la Compagnie de Jésus à fermer tous ses établissements dans son ressort. Le ressort du Parlement de Paris, c'est à peu près 40% du royaume, du territoire du royaume. Lyon relève, est dans le ressort, c'est l'extrémité sud du ressort du Parlement de Paris. Et les biens de la Compagnie seront affectés au diocèse. Et bien des évêques qui voient la chose d'un assez bon œil. Le roi intervient pour suspendre l'exécution de cet arrêt du Parlement de Paris. Le roi y est poussé par son chancelier, Lamoignon, une grande famille de parlementaires parisiens et qui a fourni plusieurs ministres à la monarchie. Il y est poussé par son chancelier, il y est poussé aussi par son fils, le dauphin, qui est proche des jésuites. Mais le processus n'est pour autant pas stoppé. D'autres parlements se saisissent du dossier, exigent à leur tour de voir les constitutions et n'attendent pas le Parlement de Paris que l'année de sursis soit écoulée. Ils n'attendent pas pour condamner la Compagnie de Jésus dans leur ressort. Au total, 9 parlements vont condamner la Compagnie de Jésus à être fermée. Le roi tente d'intervenir, c'est très intéressant, en mars 1762, en proposant une solution intermédiaire concoctée entre le chancelier Lamoignon et le dauphin. On ferait une espèce de... On nationaliserait partiellement la Compagnie de Jésus, c'est-à-dire que les jésuites dans chaque diocèse seraient placés sous le contrôle de l'évêque et des magistrats royaux, et puis le provincial de chacune des provinces françaises de la Compagnie de Jésus serait nommé par le roi sur proposition du supérieur général, du préposé général à Rome. Ça n'a pas marché pour quantité de raisons. D'abord, le Parlement n'a même pas examiné l'édit royal. N'a même pas regardé. Il n'y a pas eu d'examen par le Parlement. Et puis ensuite, lorsque le roi a envoyé cette proposition au pape et au préposé général de la Compagnie de Jésus, la réponse a été non pas niette, mais sint ut sunt, aut non sint, qu'ils soient comme ils sont ou qu'ils ne soient pas. C'est-à-dire qu'on ne change pas les constitutions de la Compagnie de Jésus. On la supprime, mais on ne change pas les constitutions. Voilà. Donc, devant cette situation, en août 1762, la monarchie étant complètement impuissante, et puis finalement, Louis XV, il n'a rien contre les jésuites, mais il participe de ce regard. Il a quand même été élevé par le cardinal de Fleury qui disait « ils sont bien quand ils sont mortifiés ». Et qui, lui, n'était jamais passé par les jésuites. Le cardinal de Fleury n'avait jamais été l'élève des jésuites. Le roi, il est gallican. Le roi, il aime contrôler ce qui se passe dans son royaume. Donc, si les jésuites ne veulent pas passer sous le contrôle des évêques qui sont nommés par le roi et des magistrats royaux, si les jésuites sont supprimés, tant pis pour eux. Voilà. Louis XV ne va pas verser de chaudes larmes, même s'il ne leur reproche rien personnellement. Donc, le pouvoir royal est impuissant. C'est un petit peu la cacophonie parce qu'il y a des régions de France où les jésuites existent, d'autres où ils n'existent pas. Donc, finalement, au mois d'août 1762, le Parlement, le 6 août, rend son arrêt définitif. Ils sont expulsés des ressorts du Parlement. Et en 1764, pour tout harmoniser, le roi publie un édit, signe un édit, qui supprime la Compagnie de Jésus dans tout le royaume. Les biens des jésuites sont confisqués et sont attribués au diocèse ou bien aux commissions qui sont créées pour régler le problème numéro un posé par la suppression des collèges jésuites, à savoir le problème de l'éducation. Les jésuites sont les principaux enseignants en France. Ils détiennent 106 collèges sur leurs 115 maisons en France, 106 sont des collèges. Ça fait un vide tout de suite, la suppression de la Compagnie de Jésus. Et un vide douloureusement ressenti par des familles qui se plaignent. Où allons-nous mettre nos enfants? Alors, devant ce vide, la monarchie imagine une solution. Dans chaque diocèse, ou dans chaque ville où il y avait un collège jésuite, plus exactement, est créé un bureau. Un bureau qui sera composé des échevins de la ville et de l'évêque, ou du représentant de l'évêque, si ce n'est pas une ville épiscopale. Et ce bureau administrera le collège qui prendra la suite du collège des jésuites. Il fallait trouver le personnel. Alors là, je passe vite, ce n'est pas vraiment mon sujet. On a trouvé d'autres ordres religieux, des doctrinaires, des oratoriens notamment. Et puis ça ne s'est pas très bien passé pour le rapport entre les échevins et les, l'évêque, parce que les échevins ont dit ben, « ça c'est une affaire qui concerne nos premiers chefs, hein, c'est la ville, c'est les affaires de la ville ». L'évêque a eu le sentiment souvent d'être un peu mis sur la touche et souvent n'a pas participé à ses bureaux. C'est le cas à Lyon, Malvin de Montazet, à Lyon, refuse de participer parce qu'il considère qu'on ne lui reconnaît pas la place qu'il devrait avoir. Et c'est à l'occasion aussi de voir fleurir en France, dans l'année 1762, plusieurs projets qui portent le titre « Projet d'éducation nationale ». Voilà d'où vient, c'est à ce moment-là qu'apparaît cette expression hein, d'éducation nationale. Puisque l'Église n'est pas capable, et finalement il ne faut pas que l'Église s'occupe de l'éducation, qui doit s'en occuper? C'est l'État. Voilà. Et puis, ensuite, troisième étape de la suppression, en Espagne. En Espagne, l'Espagne, au moment où les jésuites sont expulsés de France, l'Espagne est gouvernée par le roi Charles III, qui est le fils aîné du deuxième lit de Philippe V, marié sa deuxième épouse, donc Elisabeth Farnèse, qui avait été auparavant roi de Naples et qui est monté sur le trône espagnol en 1756. Charles III est entouré de ministres qui et de tout un personnel politique et bureaucratique, gouvernemental et administratif, de tout un personnel qui a été élevé, qui a été formé dans l'esprit bourbon, c'est-à-dire dans un esprit gallican. Le roi est maître chez lui et il doit contrôler ce qui se passe, y compris dans les affaires de l'Église. Philippe V est celui qui a signé les premiers concordats avec, après le concordat de Bologne, les premiers concordats avec la papauté, avec le pape Benoît XIV, limitant les droits de l'Église en Espagne et les droits de Rome en Espagne, pour arriver à contrôler le mieux possible son Église et d'abord son épiscopat. Donc, Charles III lui-même, lorsqu'il était à Naples, a été profondément influencé par un homme que nous allons retrouver, qui s'appelait Tanucci, qui était un juriste formé à l'université de Pise, qui est le cœur, le berceau du juridictionnalisme italien, c'est-à-dire du gallicanisme à l'italienne. Hein. Le roi est maître chez lui, l'État est maître chez lui et l'Église est un rouage de l'État. Donc cela porte Charles III lui-même à une certaine distance vis-à-vis de l'influence romaine, et les jésuites incarnent cette influence romaine. Se produit un événement, il a comme ministre Aranda, le comte d'Aranda, se produit un événement qui est une sorte d'insurrection sociale, d'émeute de la colère à cause des difficultés économiques, de la pression fiscale, et qui est provoqué par une mesure qui paraît tout à fait surprenante, c'est un arrêt municipal à Madrid, qui décide que les madrilènes ne pourront plus porter le sombrero et la grande cape, mais qu'ils devront porter l'habit à la française. Et c'est ce qu'on a, ça provoque une émeute qu'on a appelée l'émeute des chapeaux, et qui va se propager dans plusieurs villes espagnoles. Mais il faut faire attention avec les symboles. C'est souvent sur les symboles que de grands événements se déclenchent. Il faut faire très attention avec ça. Et c'est d'autant plus sensible que Charles III est arrivé en Espagne depuis Naples, il est arrivé avec des ministres italiens, et ces ministres italiens ont été très mal vus. L'influence française, la France, n'est pas très bien vue en Espagne au XVIIIe siècle et depuis un certain temps d'ailleurs. Donc tout ce qui paraît soumettre l'Espagne à une influence étrangère est très mal ressenti par le petit peuple madrilène. Alors, il suffit que le contexte socio-économique soit particulièrement difficile pour que des incidents de ce genre mettent le feu aux poudres. Et Aranda va saisir l'occasion. On a vu des jésuites dans la rue lors de l'émeute des chapeaux, qui couraient dans les rues. Oui, il y en avait, des jésuites qui ont couru dans les rues, comme d'autres religieux d'ailleurs, pour essayer de calmer la population. C'est leur rôle, essayer que la population se soumette à l'ordre établi. Donc, Aranda rend au début de l'année 1767, il rend un mémoire, il présente un mémoire au Conseil de Castille, qui est le principal conseil de la monarchie espagnole, analysant les responsabilités et attribuant l'essentiel des responsabilités à l'influence des jésuites. Et dans un conseil secret, qui est tenu peu de temps après, est décidée l'expulsion des jésuites d'Espagne. Et c'est une opération extraordinaire, que cette expulsion des jésuites d'Espagne, tous les gouverneurs de ville reçoivent une lettre renfermant une autre lettre cachetée, avec ordre de ne pas l'ouvrir avant d'avoir reçu la lettre qu'il leur ordonnera de le faire. Au moment où la lettre leur ordonnera. Et même ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'ils ont tous obéi. Il n'y a pas eu de fuite. Je trouve ça inimaginable qu'il n'y ait pas eu de fuite. Parce que les jésuites, ils ont été cueillis dans la nuit du 31 mars 1762, tous dans leur lit. À minuit, partout en Espagne, où il y avait une maison jésuite, les autorités se sont présentées et les jésuites ont été aussitôt arrêtés et expulsés. Au même moment, partout. Je trouve ça absolument extraordinaire. C'est inimaginable en France de nos jours, un truc pareil. À peine la lettre partie du Conseil des secrets des ministres, les fuites seraient dans la presse. C'est évident. C'est complètement inimaginable. Ils ont été arrêtés pour être dirigés où ? Vers les ports espagnols, et hop, vogue la galère, si j'ose dire, direction les États pontificaux. Mais Clément XIII n'en a pas voulu. Clément XIII a dit non, ça suffit. Je viens déjà de récupérer 1 000 000 de jésuites portugais, je n'ai pas su qu'en faire. Je ne vais pas récupérer 3 000 jésuites espagnols, non pas 3 000, 2 500 jésuites espagnols. Mais ensuite, il y a tous les jésuites espagnols venus des colonies, de l'Empire, l'Empire sur lequel le soleil ne se couche jamais, qui fait le tour de la Terre. Au total, c'est 5 000 jésuites qui ont été expulsés de leur maison dans les possessions espagnoles. Donc le pape n'en a pas voulu. Qu'ont fait les bateaux sur lesquels étaient les jésuites? Mais ils ont fait des ronds dans l'eau devant le port de Civitavecchia. Ils ont fait des ronds dans l'eau jusqu'à que quelqu'un vienne les héberger pendant un mois. Et au bout d'un mois, un jésuite espagnol appartenant à une famille un peu influente en Italie a obtenu que la République de Gênes veuille bien les accueillir en Corse. Donc ils ont débarqué en Corse, ils se sont installés, ma foi, un peu comme des SDF d'aujourd'hui, hein, c'est-à-dire dans des bâtiments désaffectés, dans des tentes, etc., comme ils pouvaient. Financièrement, ils ont été largement aidés par les jésuites espagnols qui appartenaient à de riches familles et qui ont fait passer des fonds pour les aider économiquement. Seulement, en 1768, vous savez que la Corse devient française. Or, les jésuites, en France, il n'y en a plus. Donc, en 1768, les jésuites espagnols qui étaient en Corse, ils doivent repartir. Et où repartent-ils? Cette fois-ci, le pape a transigé. Il a accepté qu'ils se répartissent en Italie par petits groupes. Donc, ce fameux jésuite espagnol, vous m'excuserez, mais je n'arrive pas à retrouver son nom ce soir, ce fameux jésuite espagnol organise la migration des réfugiés jésuites en Corse vers l'Italie. Il y a un seul État italien qui a vraiment refusé de les recevoir, mis à part Naples, d'où ils n'existaient plus, c'est la République de Venise. La République de Venise a été très hostile. Il faut savoir que Venise, c'est l'État italien anti-romain, catholique, etc. Il n'y a pas de souci, hein, mais anti-romain. Venise, depuis le XVIe siècle, est très méfiante face au pouvoir romain. Et c'est pour ça que les relations entre Venise et la France ont souvent été privilégiées, parce que le gallicanisme français avait un bon écho à Venise. Donc voilà comment ces jésuites se sont récupérés, si j'ose dire. Alors les uns sont devenus précepteurs, d'autres se sont des vicaires dans des paroisses, etc. Petit à petit, ils ont fini par se recaser et trouver de quoi vivre. Il reste donc des jésuites où dans les États bourbons? Eh bien, après 1767, il en reste encore à Naples. Ils étaient encore à Naples, mais pas longtemps, à la fin 67. À la fin 1767, le roi de Naples décide à son tour d'expulser les jésuites. Le roi de Naples, c'est le fils de Charles III. Son principal ministre, c'est Tanucci, dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce juriste pisan et juridictionnaliste convaincu, déterminé. Il reste encore le petit duché de Parme, le petit duché de Parme qui est aux mains du petit-fils de Louis XV et du neveu de Louis III, de Charles III, pardon. C'est donc le duché de Parme, il est sous contrôle conjoint de la France et de l'Espagne. Et il a comme principal ministre le petit-fils de Louis XV et neveu de Charles III, qui s'appelle Ferdinand Ier. Il a comme principal ministre un Français que lui a légué son père, qui était déjà principal ministre de son père, Dutilleux. Charles Dutilleux, qui est un homme éclairé, où la question religieuse ne le préoccupe pas beaucoup. Et il est lui aussi, dans la tradition bourbonienne, convaincu que l'Église doit être un rouage de l'État. Donc en 1768, Du Tillot, sentant la situation mûre, prend un certain nombre de décrets pour couper les relations entre l'Église du duché de Parme, c'est tout petit le duché de Parme, hein, même si avec il y a le duché de Guastalla et le duché de Plaisance, c'est vraiment pas grand. Il prend des mesures pour couper les relations entre l'Église et de ses possessions, et puis Rome. Or, Parme, c'est quand même particulier. Parme, c'est une création de la papauté. C'est le pape Paul III qui, au XVIe siècle, a créé le duché de Parme pour son fils aîné. Le pape Paul III était un très bon père de famille. Quand il est devenu pape, hein, il a placé sa compagne dans un bon couvent où elle a pu finir ses jours tranquillement, et il a casé tous ses enfants. Et c'est lui qui a convoqué le Concile de Trente. Il y a un lien très fort entre la papauté et Parme. Le pape Clément XIII lance un monitoire qui, en quelque sorte, jette l'interdit sur le duché de Parme. Aussitôt, Charles III et Louis XV interviennent. Charles III fait occuper par son fils Ferdinand IV, roi de Naples, lui fait occuper les enclaves pontificales dans le royaume de Naples de Bénévent et Pontecorvo. Et Louis XV occupe Avignon et le comtat venaissin. Et les trois ambassadeurs, les quatre ambassadeurs, l'ambassadeur de France, du Portugal, d'Espagne et de Naples, se rendent bras dessous, chez le pape, réclament une audience et lui réclament la suppression de la Compagnie de Jésus. Clément XIII résiste quelques semaines, puis il meurt. L'élection de son successeur est évidemment un enjeu considérable. Les historiens ne sont toujours pas d'accord pour savoir si le successeur, pour être élu, a effectivement promis formellement qu'il supprimait la Compagnie de Jésus, ou si simplement il a donné quelques garanties verbales. Bon, toujours est-il qu'il est élu, c'est un franciscain, Ganganelli, qui prend le nom de Clément XIV. Et Ganganelli, pendant les premières années de son pontificat, jusqu'en 1773, Ganganelli résiste. Charles III nomme ambassadeur à Rome un homme qui est tout à fait représentatif de cet anti-romanisme espagnol et qui s'appelle le comte de Florida Blanca. Et c'est le comte de Florida Blanca qui va unir les efforts des ambassadeurs des autres dynasties Bourbon pour finalement faire flancher la papauté. Les circonstances font que le pape a de moins en moins d'appui pour résister. Quels étaient les souverains qui protégeaient encore les jésuites ? Il y avait le roi de Pologne, Stanislas. En 1772, il commence à se faire dépecer par la Prusse, l'Autriche et la Russie. Il y avait Marie-Thérèse, la Landesmutter, qui incarne la Pietas austriaca, et qui pourtant était tout à fait favorable aux jésuites. C'est elle qui a installé l'université jésuite, qui a donné l'université de Vienne aux jésuites. Quand vous allez à Vienne, vous voyez encore... C'est une place, l'université, l'église Saint-Ignace, enfin, il y a un petit quartier jésuite là, à Vienne. Mais Marie-Thérèse, l'impératrice Marie-Thérèse, partage le pouvoir avec son fils Joseph II, qui est un catholique éclairé, partisan du juridictionnalisme, juridictionnaliste convaincu, qui n'aime pas beaucoup les jésuites, qui de plus pour lui représente une forme de piété complètement révolue et désuète. Il est contre les pèlerinages, contre les dévotions, contre les reliques, etc. Une piété très intérieure et assez désincarnée, mais réellement pionnière pour autant. C'est une autre sensibilité catholique. Et comme il y a beaucoup de tensions entre Marie-Thérèse et Joseph II sur un certain nombre de points, et bien sur la question des jésuites, Marie-Thérèse, quand le pape Clément XIV la sollicite pour lui demander d'arbitrer, alors Clément XIV aurait voulu organiser une espèce de conférence internationale dans laquelle Marie-Thérèse aurait été l'arbitre pour essayer de modérer les prétentions des souverains bourbons. Et Marie-Thérèse dit qu'elle ne bougera pas. Deuxième appui qui disparaît. Dernier appui qui disparaît, Charles-Emmanuel III, le roi de Piémont-Sardaigne, qui soutenait les jésuites dans ses états et refusait de les supprimer, parce que c'était de très bons professeurs, à ses yeux, et qui meurt en 1773, au début 73. Donc, sentant que tous les soutiens temporels font défaut, sentant que, à Rome même, dans la curie, tout le monde n'est pas partisan du maintien de la compagnie, eh bien, en le 21 juillet 1773, après avoir fermé au printemps le collège romain, qui est le cœur de la compagnie de Jésus, c'est là que se trouve la cellule de Ignace de Loyola, là où il est mort, après avoir fermé le collège romain, le pape Clément XIV, le 21 juillet 1773, signe un bref, le bref Dominus Ac Redemptor, par lequel il supprime dans toute la catholicité la compagnie de Jésus. Mais le pape franciscain est plus rusé qu'un jésuite. Il y a différentes façons de publier un bref. On peut le publier urbi et orbi. Et dans ce cas-là, publier urbi et orbi, il s'applique partout sans discussion. Et ce n'est pas la méthode employée par Clément XIV. Clément XIV, qui a supprimé la compagnie de Jésus contraint, Clément XIV publie le bref à Rome en tant qu'évêque de Rome. Et il l'envoie à tous les évêques de la catholicité en leur demandant de le publier dans leur diocèse. Et il y a dans la catholicité des évêques qui refusent, comme par exemple l'archevêque de Malines, Frankenberg, qui est un partisan des jésuites, et qui refuse et qui ne le publiera que contraint par Joseph II. Et puis il y a des souverains qui interdisent à leurs évêques de publier la bulle, le bref de suppression. Et ces souverains, ce sont des souverains qui ne sont pas catholiques. Le grand roi de Prusse, Frédéric II. Et puis c'est Catherine II. Il y a des jésuites en Prusse, la Prusse n'est pas catholique, mais en 1745, Frédéric II a mis la main sur une province autrichienne qui est catholique et qui économiquement était très intéressante, la Silésie. Donc, il a dans ses états une partie de sa population qui est catholique, où il y a des évêques, et il interdit aux évêques de Silésie de publier. Et Catherine II fait de même où ? Elle fait de même dans la partie de la Pologne qu'elle a récupérée et qui forme une partie de la Russie blanche. Et là encore, elle interdit à ses évêques. Alors là, les jésuites se tournent tout innocemment, les jésuites de ces régions de Silésie et de Russie blanche, où les jésuites étaient très dynamiques. Ils sont en plein essor dans ces régions-là. La compagnie de Jésus, quand elle est supprimée, c'est à peu près 20 000 membres. Et les effectifs depuis le début du XVIIIe siècle en Silésie ou en Russie blanche ont été multipliés par 3. Ils sont en plein essor dans ces régions-là. En France, ils stagnent, ils diminuent pas, mais ils stagnent, une honnête moyenne. Bon. À peu près 2000 jésuites en France. Les jésuites se tournent donc vers le pape et vers le préposé général des jésuites en disant, nous, par vocation, on obéit au pape. On voudrait bien obéir au pape et donc renoncer à notre état de jésuite. Il n'y a pas de souci, notre quatrième vœu, c'est l'obéissance au pape, perinde ac cadaver. Mais le roi ne veut pas. Alors que pouvons-nous faire ? C'est très ennuyeux comme situation. C'est très ennuyeux. Alors en Prusse, Frédéric II va adopter une situation de compromis. Il va à la fois supprimer la compagnie de Jésus et la maintenir, du moins en Silésie. C'est-à-dire qu'il va constater que la compagnie de Jésus n'existe plus, mais il recrée aussitôt une nouvelle congrégation régulière, de prêtres réguliers, comme les jésuites, dans laquelle rentrent tous les jésuites, et qui pourra recruter. En Russie blanche, les jésuites restent sous le nom de jésuites, officiellement non reconnus par Rome, et non reconnus par Rome jusqu'au début du XIXe siècle. Mais ils prospèrent. Ils prospèrent pourquoi ? Parce qu'ils accueillent quantité de jésuites des États catholiques où ils ont été supprimés, et notamment de jésuites français qui se réfugient en Russie blanche. Et lorsque progressivement, la Révolution française ayant complètement changé le contexte, complètement changé la donne, parce qu'avec la Révolution française se produit dans l'Europe, dans le reste de l'Europe, une réaction catholique qui est tout à fait favorable à la Compagnie de Jésus. Une réaction catholique et une réaction en faveur de pouvoir monarchique fort. C'est cette réaction-là qui va aboutir au Congrès de Vienne en 1815 et qui va consolider les monarchies, au moins provisoirement. Mais cette réaction-là, elle voit dans les jésuites, eh bien, leur porte-parole. Les jésuites avaient été critiqués parce qu'ils étaient les défenseurs de la religion selon la réforme catholique et les défenseurs du système monarchique et de la monarchie absolue. Les jésuites, tout à coup, deviennent au contraire, ceux qu'il faut ramener au premier rang. Donc, par étapes, à partir de 1800, le pape va reconnaître l'existence de jésuites, d'abord à Naples, puis à Rome, puis en Russie, et en 1814, le pape Pie VII rétablit la Compagnie de Jésus. C'est une nouvelle histoire qui commence, et dans l'histoire de la Compagnie de Jésus, on appelle ça la Nouvelle Compagnie. Voilà. Alors, les jésuites ont-ils été supprimés à cause d'une, je ne me souviens plus de la phrase que tu avais utilisée, Eric, je l'ai notée. Voilà, querelle de pouvoir au sein de l'Église ou capitulation devant les pouvoirs politiques. Ben, je fais une réponse de Normand, les deux, mon capitaine. Voilà, c'est clair. Les jésuites rencontraient au sein même de l'Église une hostilité de la part du clergé séculier parce qu'ils étaient, n'obéissaient pas aux évêques, ils n'étaient pas soumis au contrôle des évêques. Ils rencontraient une hostilité de la part d'ordres religieux qui étaient plus ouverts sur l'évolution culturelle du temps et notamment les oratoriens. Ils rencontraient également une hostilité de la part d'un clergé qui avait de fortes sympathies jansénistes ou jansénisantes et qui était bien représenté à la curie romaine par un certain nombre de cardinaux. Donc incontestablement, il n'y a pas eu unanimité pour les soutenir. Et puis incontestablement aussi, les rois bourbons ont fait pression sur Rome pour la suppression de la Compagnie de Jésus. C'est évident. Et que s'il n'y avait pas eu la pression des ambassadeurs bourbons à Rome, le pape n'aurait pas pris de lui-même l'initiative de supprimer la Compagnie de Jésus. Mais au-delà de cette question de savoir si c'est une question de querelle interne à l'Église ou de capitulation de l'Église, du pape devant le pouvoir politique, il faut prendre du recul et au-delà, il faut bien voir que la suppression de la Compagnie de Jésus, elle symbolise, elle manifeste, elle révèle ce basculement culturel de l'Europe catholique au XVIIIe siècle. C'est la fin de la période tridentine de l'histoire de l'Église.